Le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives.
Le 10 décembre 1885, le journal des campagnes annonçait la disparition de Ephrem Lompré, un jeune homme de 26 ans qui était veuf depuis quelques semaines et père de deux enfants. En fait, il était disparu depuis le 5 décembre, donc ça faisait déjà 5 jours qu'on avait perdu sa trace. Concernant les circonstances de sa disparition, on a souligné qu'il avait quitté la ferme c'est-à-dire sa ferme qui était située à Saint-Henri de Mascouche et qu'il devait se rendre apparemment vers Montréal pour vendre des produits de sa terre. Le jeune cultivateur a été vu sur place, sur la place Jean-Cartier, tôt le samedi matin. Et le même soir, vers 18h, il a vendu la totalité de sa marchandise. Alors, tout ce qu'il avait emmené avec lui, ça a été vendu. Donc, on peut parler, je pense, d'un succès de ce côté-là. Alors, une fois qu'il a vendu toutes ces choses, il a repris la route pour retourner chez lui. Selon le calcul de ce qu'il avait apporté, tout ça, on estime qu'il avait encaissé pour environ une vingtaine de dollars dans ses poches. Concernant la vente de ses produits. Mais malheureusement, Lompré n'est jamais rentré chez lui. Le lundi, on a retrouvé sa voiture et son cheval dans une station à Sautre-aux-Récollets, mais de lui, on n'avait aucune trace. Donc, c'est le mystère le plus complet dans cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il est devenu? Bon, bref, c'est sûr que juste à ce stade-là, on pourrait parler d'une simple disparition. Et vous allez deviner certainement que ce n'est pas une disparition, parce que sinon on n'en parlerait pas ici. J'ai déjà expliqué que pour mes études sur les homicides, ben, il fallait se faire une définition claire et les disparitions n'en font pas partie. Donc généralement, à moins de certaines exceptions, quand on n'a pas retrouvé le corps, moi je considère ça comme une disparition. Et généralement, je m'y intéresse beaucoup moins, donc ça fait pas partie de mes recherches du dictionnaire, entre autres, des homicides commis au Québec. Il y a quand même eu des développements dans cette affaire-là, donc on va y arriver. Le mercredi 9 décembre, on a retrouvé un corps à quelques arpents de la voie publique. Je dis bien un corps. Est-ce que c'était celui du jeune Lompré? On va voir ça. Dans un premier temps, on raconte que le corps, la victime, portait des marques de violence à la tête et on l'avait enfoui sous un monceau de perches. Donc, on avait quand même essayé de dissimuler le cadavre. Donc, automatiquement, on peut parler de mise en scène. Mais ce cadavre-là, était-il celui de Lompré? Malheureusement, le mystère se poursuit parce qu'il semble qu'on n'ait jamais pu identifier clairement le corps. Donc, on en a déduit que ce pourrait être celui de Ephrem Lompré. Mais pour en être sûr, ça, c'était une autre paire de manches. Malgré tout, la disparition de Lompré a été considérée comme un homicide. Eh oui. Et on a vite soupçonné une bande de brigands qui hantaient alors les alentours de Montréal et qui agissaient sous le leadership d'un dénommé Joseph Montreuil. Donc voilà, même si on n'était pas certain de confirmer que le corps était celui de Lompré, on a quand même considéré c'est des choses qui arrivent. Par exemple, on va voir avec le temps que même s'il y a des corps qui n'ont pas été retrouvés et qu'on pourrait classer ça comme une disparition, il y a certains dossiers qu'on va considérer quand même comme étant un homicide parce que, finalement, ben parce que la SQ l'a dit. pour des cas plus récents, la SQ considère certaines disparitions, en fin de compte, comme un homicide. Donc, il faut s'en remettre à leur opinion à ce moment-là et pas dire « Ah ben oui, mais nous autres, on manque de preuves. » Il faut parfois faire confiance à nos institutions, n'est-ce pas? Et si eux disent qu'ils considèrent comme, mettons, un dossier en particulier comme un homicide, eh bien, il faut les croire parce qu'eux autres ont peut-être des éléments qui pointent toutes en direction d'un homicide, mais ils ne peuvent pas nécessairement en parler et les divulguer, justement pour les besoins de l'enquête. Alors, voilà. Donc, si on revient à celui qui était soupçonné du meurtre du jeune Lompré, eh bien, c'est en novembre 1886 que les journaux ont annoncé l'arrestation de Montreuil. Et ensuite, il a été clairement identifié comme étant le dirigeant d'une gang, donc d'un gang de crimes, de criminels organisés. On a vu précédemment que, bon, ce serait pas le premier, parce qu'on a déjà vu la gang à Chambers quelques décennies plus tôt. Mais quand même, ces gangs-là sont fascinants d'un certain côté, même si on n'a pas beaucoup de détails, parce que ils sont arrivés bien avant le crime organisé. Donc, c'était les premiers groupes, des bandes criminelles qui s'organisaient entre eux. Là, n'oubliez pas qu'on est en 1886, alors que le Far West battait son plein et même s'éteignait tout doucement. En 1886, il y a beaucoup d'événements déjà qui ont marqué le Far West qui étaient terminés. Alors, on s'est peut-être inspiré de certains gangs. Le gang de Jesse James était déjà dissous parce que Jesse James, par exemple, avait été assassiné en 1882. Billy the Kid était considéré comme mort également. Donc, Butch Cassidy est venu plus tard, les Dalton aussi. Mais voilà le style, peut-être que l'inspiration est venu du côté américain à ce moment-là, pour ce qui est du gang à Montreuil. Tandis que le gang à Chambers, il n'y avait aucune inspiration, je pense pas, parce que c'est venu beaucoup plus tôt. Donc, pour être plus précis, Montreuil a été arrêté à Joliette le 3 novembre 1886, et un journal l'a décrit de cette manière, et je rouvre les guillemets, « Montreuil est un homme d'environ 40 ans. Il a toutes les allures d'un brigand déterminé. Rarement il vous regarde en face, jamais il ne le fait autrement que d'un regard fugitif. On dit qu'il est originaire de Québec. Il s'est donné tant de noms dans sa vie qu'il est un peu difficile de retracer son histoire. » Et je ferme les guillemets. Évidemment, comme nous, probablement, on espérait à cette époque-là que l'arrestation de Montreuil et de ses complices puisse éclaircir la fameuse disparition de Lompré, donc qu'on puisse amener des éléments pour mieux comprendre ce qui s'était passé. Mais malheureusement, ça a été l'effet contraire. Il n'y a jamais eu de poursuite judiciaire dans cette affaire. Faute de preuves. Donc, je vous ai fait languir un peu. Montreuil a été arrêté, mais finalement, ça n'a pas débouché plus loin. Probablement que oui, on l'a interrogé, et c'était peut-être le dernier espoir en l'interrogeant pour voir s'il sortirait pas quelque chose de cet échange-là. Et finalement, il semble que non. Donc, on pourrait même se poser la question, est-ce que Ephraim Lompré a vraiment été assassiné? Est-ce qu'il est disparu? N'oublions pas qu'il était veuf avec des enfants à charge. C'est pas beaucoup, mais ça, il y en a qui se sont suicidés pour moins que ça. Donc, ça pourrait être un motif parce qu'il est disparu dans les bois, on l'a jamais retrouvé parce qu'il a décidé de mettre fin à ses jours. On le sait pas. Mais bon, les autorités à l'époque avaient assez de matière apparemment pour considérer l'affaire comme un homicide. Mais cet homicide-là n'a jamais été résolu. Donc aujourd'hui, c'était l'avant-dernier épisode plutôt de la deuxième saison de Non élucidé. Donc au total, le 39e épisode de Non élucidé. Parce que pour mémoire d'archive, on en a plus que ça. Je pense qu'on a dépassé 55, quelque chose comme ça. Vous irez voir sur Balado Québec, ils sont tous là avec la série Féminicide et quelques balados hors série. Il y en aura d'autres aussi également. On aura des entrevues bientôt, des gens très intéressants qui ont rapport, évidemment, avec notre histoire judiciaire, rien de moins. Donc, en cette 39e épisode, je tiens à souligner que le dernier de la série, le dernier de la deuxième saison, pardon, c'est-à-dire le 40e qui aura lieu à la suite de celle-ci, concernera un cas non élucidé qui date de 1970. Pourquoi ce bond dans l'histoire de 1885 à 1970? Eh bien, c'est parce que je veux vous montrer qu'on va y arriver un jour et qu'on va parler des cas plus récents. Je trouve ça malheureux, mais bon, faut que je respecte ça aussi. Hein. Il y a certaines personnes qui préfèrent entendre parler de cas non résolus plus récents, donc qui sont capables de s'identifier à ça. Les plus anciens, des fois, sont boudés un peu. On considère plus que c'est de l'historique et tout ça, que ça sert à rien. Mais non, moi je m'obstine à dire que non, que ça ne sert pas à rien, ça sert à quelque chose parce que plus on voit de dossiers, plus on se raffine avec le temps, plus on voit des cas, on peut même tirer des exemples aussi avec des expériences du passé, des tendances. Je vais l'expliquer dans la balado suivante, mais ça je suis pas mal certain. Plus on en voit finalement, plus on comprend le phénomène. Ça, c'est comme la lecture ou l'écriture. Plus on lit et mieux on devient un bon lecteur ou aussi même un bon auteur. On voit des mots, on s'inspire de ce qui se passe à gauche et à droite, on découvre de nouveaux auteurs. Donc, c'est un peu tout ça. Alors, puis il faut pas non plus oublier que notre histoire est parsemée de crimes qu'on a oubliés, effectivement, et j'en ressors beaucoup. Là, on parle d'affaires non élucidées seulement, mais il y en a beaucoup là-dedans qui ont été oubliés depuis longtemps et qui n'ont jamais eu de documentaire ni de balado là-dessus avant que moi je m'y intéresse, dans le fond. Alors voilà, on redécouvre notre passé parce que ces cas-là, véritablement, c'était comme éteint depuis longtemps. Ils dormaient dans les archives et tout ça. Alors que, en les remettant en place, dans un ordre chronologique, on découvre des choses, des petites tendances, des petits. Ça nous fait des clins d'œil. Donc, le prochain cas, attachez votre tuque, c'est quelque chose. C'est le meurtre d'une jeune femme de 23 ans qui a attiré mon doux. Ça a développé. C'est vraiment étrange, cette affaire-là, tout ce qui entoure cette affaire-là. Il y a plusieurs rebondissements, même il y a du crime organisé dans ça. Je suis même surpris qu'on ne se soit pas intéressé à ce cas-là avant, parce que vous allez voir, le nom de la victime est inconnu. La seule personne, je dis pas ça pour me péter des bretelles, mais la seule personne qui en parle sur tout l'Internet, c'est moi. Dans un blog, dans mon blog, ericveillette.ca. Donc, j'ai écrit un article déjà, mais là, je me suis aperçu que ça méritait d'aller plus loin. Alors, j'ai commandé l'enquête de coroner qui fait 140, 150 pages à peu près. Donc, on va essayer d'aller au fond des choses, essayer de comprendre et rester à l'affût parce que si vous avez de l'information concernant ce cas-là, je garde le nom pour la balado lors de la présentation de la balado. Donc, je nomme pas la victime tout de suite. Mais voilà, si vous avez des informations, même si ça date de 1970, ça va être la bienvenue. Et évidemment, l'idéal, ce serait des gens qui ont connu cette personne-là. Parce que souvent, ce qui est difficile à récolter, c'est les informations concernant la personnalité de la victime. Savoir qui elle était, comment elle agissait, qu'est-ce qu'elle mangeait ou les lieux qu'elle fréquentait, qu'est-ce qu'elle aimait dans la vie. Donc, c'est tout ça qu'on perd avec le temps, le fameux patrimoine vivant, si on veut. Il y a des choses qui restent, mais souvent, ce qui reste, c'est des choses plus tristes, comme des plaies par balles ou des choses comme ça. Là, c'est ça. Ça nous en dit un peu moins sur la personnalité de la victime. Donc, ce qu'on appelle la victimologie. Alors voilà, restez à l'affût et comme dernière de la deuxième saison, ben on va se payer la traite, comme on dit. On va en parler, ça va être une balado d'ailleurs qui va être un petit peu plus longue. Et je le ferai aussi, bon, on va revenir pour une troisième saison, c'est certain. Il y en a tellement de cas non élucidés que, bon, bref. mais on va essayer de continuer de respecter l'ordre chronologique. Donc, quand on va revenir pour la troisième saison, on va continuer, mettons, on va sûrement réussir à terminer la fin du 19e siècle pour entamer enfin le 20e siècle et tomber un peu dans l'ère moderne, si on veut. Donc, on va se reconnaître beaucoup plus là, dans certains faits. Comme par exemple, Blanche Garneau, qui est très connue, même si ça date de 1920, il y a des choses qui commencent à ressembler plus à notre vie quotidienne. Les transports en commun, le tramway, même si le tramway n'existe plus, on a les autobus, il y a des habitudes de vie qui commencent aussi à se développer et tout ça. Alors voilà, je vous laisse là-dessus et puis surveillez le dernier épisode, le 40e de Non Élucidé. Bye!